Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va les copains ?
Eh ben ça va super, et vous ?
Bah écoutez, on est ravis de se retrouver et de vous retrouver, vous aussi qui écoutez RTL un petit peu partout en France.
Bien mangé cette
Bienvenue.
Semaine.
Ah, pardon, Jean-Sébastien.
Il a bien mangé cette semaine.
Il a bien mangé cette semaine. Il est heureux. Bienvenue dans RTL vous régale. On vous emmène dans le Bordelais ce matin. On va passer 1h15 à Saint-Émilion. Même si nous allons déjà devoir interrompre cette émission par une information de dernière minute. Et puisque nous sommes dans le Bordelais, ton de circonstance, c'est ce qu'on appelle un ton grave. Dans la lutte contre la Covid-19, on apprend que les laboratoires pharmaceutiques planchent actuellement sur l'élaboration d'un médoc. Enfin un remède sur lequel tout le monde sera d'accord. Non mais vous imaginez le truc. On pourrait se soigner en s'envoyant de grandes lampées de modération à coups de Château-Langelin 2005. C'est pas le bonheur, ça ? Vraiment, un truc à finir avec le vocabulaire du capitaine Haddock dans Tintin et Mildiou, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, laissez-moi du coup vous présenter les Dupont et Dupont d'RTL vous régale. Ils sont à mes côtés chaque semaine. À l'image d'un grand vin, sa robe donne de précieuses indications sur son potentiel. Voici Louise, petit Renaud.
Bonjour. Bonjour à tous.
Salut Louise. Quant à lui, il a du corps et j'ai envie de vous dire un corps qui lui a permis de bâtir cette légende. Voici Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bonjour Jean-Michel. Bonjour.
Un corps qui a la fermeté d'une bouillie bordelaise. Ces deux-là s'affrontent tout à l'heure dans le frigo, dans le petit frigo d'onveur. Et vous jouez avec
vous. Vous savez que je peux me lever et ma main quand même est pas loin.
Oh, je sais, calmez-vous.
Mais c'est pour ça que nous avons installé des plexiglas. Voilà, ça sert à ça aussi.
Bouclier.
Je disais donc le défi frigo tout à l'heure à 11h. Vous jouez avec nous en nous appelant au 3210 ou en envoyant le mot régal suivi de votre message en 64-900. Alors écoutez bien parce que vous allez gagner ce matin en jouant avec nous un week-end au cœur du Beaujolais, c'est-à-dire au magnifique château de Pizet. C'est à la fois un château hôtel 4 étoiles et c'est surtout un des meilleurs restaurants gastronomiques de la région. Vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30 pour nous appeler. Je vous souhaite bonne chance. Et dans la playlist de cette balade au cœur du vignoble, Angèle. Angèle avec Bruxelles, je t'aime. Ajoutez-y Annie Lennox et Dave Stewart, c'est-à-dire les Eurythmics. En 1985, avec There Must Be an Angel et l'harmonica d'un certain Stevie Wonder. RTL vous régale, c'est parti, jusqu'à 11h30, c'est sur RTL, comme tous les samedis matins, avec mes acolytes. Et on démarre avec Charlene Spiteri et Texas Mr. Hayes. Charlene Spiteri, Texas, sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. RTL, revivre ensemble. 10h15, 11h30,
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Très bon début de week-end avec nous sur RTL. RTL vous régale jusqu'à 11h30. Alors nous sommes à Saint-Émilion, il n'est pas nécessaire de préciser qu'on est dans le Bordelais, dans le département de la Gironde. Alors, Sylvain de Saint-Émilion est connu au moins de nom dans le monde entier. Il faut quand même sans doute situer le village, Jean-Sylvain.
Bordeaux est traversé par la Garonne. Il faut aller sur les bords de la Dordogne, à presque 40 km à vol d'oiseau, à l'est de Bordeaux. C'est là que se trouve Saint-Émilion, village de 2000 habitants qui est accolé à la petite ville de Libourne.
On est sur la rive droite de la Dordogne, dans ses derniers méandres. Au nord, on trouve les côtes de Blaye et les côtes de Bourg.
Ça envoie.
Hein. Ah ben ça, c'est... Ah, sauf si vous êtes allergique à la poussière.
En attendant, à partir de là, Saint-Émilion apparaît. Cité de pierre fortifiée, perchée au milieu des coteaux en hémicycle d'un des plus nobles vignobles. Le village de 2000 habitants réunit tout ce qui fait le charme d'une cité médiévale. Les ruelles pentues, aux pavés incertains, des remparts dévorés par la végétation, des églises à la majestueuse architecture et des places sur lesquelles il fait bon prendre le frais.
C'est très joli. Mais est-ce que je peux poser une question de touriste ?
Oui !
Le truc de novice.
Et allez-y.
On sait qui était ce type, Émilion, justement. Et est-ce qu'il a eu, justement, une influence sur la viticulture locale ? Oh, les dieux. Oh, la programmation de jukebox.
Ah, ouais.
Qui chante ?
C'est Joe Dassin, ça.
Eh oui.
Ouais.
C'est Joe Dassin. Alors bon, d'origine bretonne et niveau miracle, Émilion, puisque c'est son nom d'origine, était plutôt spécialisé dans le pain. Notamment lorsqu'il est rentré dans un four allumé, histoire de récupérer la pelle à pain que des petits malins avaient lancée dedans. On savait rire à l'époque.
Le Rémi Juliette.
Donc, rien à voir avec Dom Pérignon. Non, parce que lui, c'est vraiment un saint, Émilion. Il est passé par la Charente avant de s'établir dans un ermitage qu'il creusa dans la roche. Il réconfortait les affligés et un jour il rendit la vue à une femme. À partir de là, ses disciples entreprirent de creuser un oratoire, une église monolithe, la plus vaste d'Europe, creusée dans la roche. Tout cela se passe au 8e siècle. Alors le village fut d'abord un lieu de pèlerinage. Église, cloître, chapelle et catacombes ne manquent pas lorsqu'on se balade à Saint-Émilion.
Alors ce qu'on sait moins, Jean-Sébastien, c'est que le sous-sol là-bas est plein de vide en fait. On a exploité le sous-sol pour sa pierre calcaire.
À partir du 9e siècle et pendant 1000 ans, on a extrait la pierre en dessous pour construire ce qu'il y avait au-dessus. La cité médiévale est née ainsi, comme plusieurs monuments de Bordeaux. Alors en attendant, sous Saint-Émilion, il y a un labyrinthe de galeries de 200 km qu'on ne soupçonne absolument pas.
Et au registre des anecdotes pour briller en société, il y a plus étonnant sans doute, c'est qu'à quelques kilomètres de Saint-Émilion, c'est là que prit fin la guerre de Cent Ans.
C'est parce que les rois anglais voulaient être rois de France qu'il y a eu cette guerre de 100 ans qui a duré 116 ans. Voilà. Et c'est à Castillon, le 17 juillet 1453, que la bataille décisive est livrée. Les Anglais sont taillés en pièces par l'artillerie française. Ce sera le dernier face-à-face entre Anglais et Français. Les troupes françaises s'emparent très vite de Bordeaux et donc reprennent l'Aquitaine aux Anglois.
Et à Castillon, il y a certains soirs, on peut assister à un son et lumière grandiose qui reconstitue l'épisode historique qui permit à Castillon de gagner la bataille, sa bataille. À Castillon, la bataille, il y a également une fête de la Lamproie, le dernier week-end d'avril. Mais la Lamproie, vous allez voir, je vous en parle tout à l'heure.
Alors, oui, si je suis impatient.
Si on en revient au vin...
Ça c'est une pépite.
Ah bah ça c'est un truc...
C'est collector, c'est la dernière chanson de Clo-Clo ça.
Enregistrée la veille de sa mort, le 10 mars 1978, un rap Bordeaux rosé. Bon, il faut être conscient que le vignoble bordelais est le premier au monde par sa réputation et par sa taille. Avec 110 000 hectares de vignes classées en AOC, on produit là-bas à peu près 5-6 millions d'hectolitres. Avec une particularité, l'assemblage. Les vignerons bordelais ont été les premiers à systématiser le mélange de cépages. Ils en ont fait une marque de fabrique. Alors que la plupart des autres appellations travaillent des vins monocépages, comme l'Alsace ou la Bourgogne. Et puis il y a des régions où l'assemblage est autorisé, mais n'est pas systématique. Autre curiosité dont on parle de moins en moins, c'est le fameux classement classement de 1855.
Ah bah oui, c'était la Bible ce truc-là pendant des années. C'était le best du best.
Sauf que cette classification, commandée par Napoléon III pour l'Expo universelle de la même année, eh bien, a été faite par les courtiers bordelais. Et comme il fallait faire vite et efficace, les courtiers n'ont goûté aucun vin. Ils ont considéré que seul le Médoc en rouge et le Sauterne en blanc représentaient l'excellence. Et ils ont déterminé un classement en 5 niveaux, se basant uniquement sur les prix. 57 rouges, 21 blancs à l'époque. Une seule modification en 73. Mouton Rothschild est promu premier grand cru classé. En fait, dans ce classement, il n'y a que des vins de la rive gauche. Et ce classement, il est toujours d'actualité, même s'il y en a d'autres. Mais chacun sait que le meilleur vin du Bordelais, il se chante.
Quand on s'en va, ça fait du bon, le meilleur vin de nos régions.
Lâchez-moi, Louise. Je vous en prie.
Oh, j'adore, ça y est, je m'y vois.
Je l'ai pas, celle-ci, par contre.
Ah, bah ça, c'est local.
Ah, c'est local, d'accord. Parfait. On remercie nos collaborateurs locaux, du coup. RTL vous régale, comme tous les débuts de week-end, je rappelle que c'est aussi un défi frigo. Vous nous donnez un ingrédient et Louise et Jean-Seb auront 1 minute 30 tout à l'heure pour en faire une recette. Vous gagnez ce matin un week-end au cœur du Beaujolais, au magnifique château de Pizet. Je le disais, château hôtel 4 étoiles et un des meilleurs restos gastronomiques de la région. Et je vous rappelle que pour jouer avec nous, c'est très simple. Vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30 pour nous appeler au 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régale suivi de votre message au 64 900. Tiens, est-ce que vous savez que la semaine prochaine, Louise, Jean-Seb, on va lancer un nouveau concours en plus?
Mais il paraît.
Et ouais.
Dites-nous.
La semaine prochaine, dans RTL vous régale, on vous paye l'addition. Et écoutez bien, on va vous offrir 1000 euros, je dis bien 1000 euros, à gagner en carte cadeau avec deux forks.
Non.
Pour vous faire plaisir dans plus de 6000 restaurants partout en France. Donc on vous attend samedi prochain, aux alentours de 10h15, après l'info de 10h, pour lancer ce concours qui va vous permettre de gagner 1000 euros de resto en famille. C'est absolument
c'est
génial.
C'est énorme.
Voilà, on se retrouve dans quelques instants.
C'est drôlement généreux, Jean-Michel.
Mais oui, moi, c'est la fin de l'année qui approche. Voilà, vous connaissez les origines belges. On n'est pas loin de la Saint-Nicolas. Hein, chez nous, ça se fête.
Et
on se retrouve dans quelques instants avec les spécialités locales du côté de Saint-Émilion. A tout de suite, les copains.
Tout de suite, retour de RTL. Vous régale avec Jean-Michel Zeka. Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale
avec Jean-Michel Zeka.
Nous sommes à Saint-Émilion ce matin avec mes collègues Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Le trio magique, j'adore le mot collègue.
Ouais,
parce qu'il y avait des chemins faisants.
On s'en retrouve à la cantoche.
Chemin faisant avec mes collègues. Et là, on a pris notre petit panier et sur ces sentiers de Saint-Émilion, on va vous ramener de l'apéro, ouais, un poisson qui fait peur et un peu de raisin aussi. Mais pas que, vous allez voir.
Alors, l'apéro, c'est Lillé. C'est un apéritif créé par la famille Lillé, négociant en vin et spiritueux, et liquoriste depuis 1872 en Gironde. Et à la fin du 19e, c'est l'un des principaux lieux de négoce et de vin. Et donc, ce port français de Bordeaux est relié aux Antilles. Le principe de mélanger du vin aux épices, c'est une pratique répandue pour des vertus médicinales, notamment. Et la famille Lillé crée son dosage. Le Lillé est né. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le silence des agneaux, animal lecteur, il boit du Lillet en apéritif,
ah bon,
avec une rondelle d'orange et de la glace. Ah, et il en sert, ouais, notamment dans le premier épisode à Clarence Starling, l'agent du FBI avec qui il joue gentiment.
Ah bah d'ailleurs, dans le silence des agneaux, il pourrait aussi manger de la lamproie de Sainte-Terre.
Oui, parce qu'elle aurait sa place, hein, tranquille dans le casting.
Elle est âgée d'environ 500 millions d'années. La lamproie, parfois surnommée vampire des mers, parce que c'est vraiment pas très joli. C'est vraiment emblématique de Saint-Émilion et elle est le symbole du village de Sainte-Terre. Alors, elle était cuisinée autrefois au Moyen-Âge sous forme de pâté en croûte, ça se cuisinait. Et la commune de Sainte-Terre s'est autoproclamée capitale mondiale de la lamproie en 1990, rien que ça. Elle a donc choisi de célébrer cet animal aquatique tous les ans au mois d'avril. La confrérie, on la connaissait pas celle-là, la confrérie de la lamproie rassemble les amateurs et les curieux lors de deux journées de célébration et de partage, bien sûr, s'appelle la fête de la lamproie.
J'ai raison de dire que c'est... Oh, mais c'est terriblement moche, hein. C'est atroce.
Ah, mais
vraiment.
C'est génial. Moi, je trouve que c'est le truc idéal pour Halloween.
Mais ouais, non, mais c'est génial.
Vous prenez votre lamproie en laisse et puis les enfants sortent avec leur lamproie. On est sûr de leur filer des bonbons. Hein.
Non, à Sainte-Terre, ils sont très fiers de la lamproie.
Ah oui, mais c'est.
Et si vous n'avez pas de lamproie pour Halloween, prenez une rascasse. Ça marche aussi, vous allez voir. Bon, Jean-Sébastien, on parle du croquet aux amandes parce que c'est ce petit gâteau qu'on adore.
Oh, c'est un petit gâteau en forme de bâtonnet de 10 cm de long, composé de farine, de sucre d'amande et d'eau de fleur d'oranger. Alors, c'est fait C'est une pâte qui est très ferme, qui nécessite très peu de cuisson, mais ça fait partie de ces gâteaux qu'on peut emmener en voyage et qu'on emmenait sur les bateaux au long cours parce qu'ils se conservent très très longtemps et c'est, n'empêche, fin délicieux.
Louise, petit contrôle de votre haleine, rapidement.
Non, j'allais dire petit, vous n'êtes pas gentil, j'allais dire petit point de potager, moi. Je vais vous parler de l'ail, alors c'est une pousse jeune de l'ail, c'est un condiment qui est très apprécié. Pour vous donner une idée, ça mesure une vingtaine de centimètres de haut, ça ressemble un peu à un poireau sauvage dont le bulbe est blanc rosé qui n'est pas encore formé. On le ramasse environ 3 mois, pendant 3 mois, et on la trouve en botte sur les marchés locaux entre mars et octobre. C'est très bon.
On a encore un peu en ce moment sur les marchés, parce que comme tout est en
oui,
retard...
Oui, bah là c'est un peu le festival. Mal des saisons là en ce moment.
Dans les légumes, c'est assez étonnant.
J'avais promis du raisin dans le panier, Louise.
Bah exactement, mais du raisin un petit peu enrobé, on va dire. Les raisins de Sauternes, c'est une spécialité du sud-ouest de la France, évidemment. Ce sont en fait des grains de raisin imbibés de Sauternes et, attention, enrobés de chocolat.
Ça doit être fin délicieux,
ouais,
ce truc-là.
Délicieux.
Bon, Jean-Sébastien,
on est obligé de passer au gras.
Voilà, on passe au sérieux.
Voilà, on va passer au solide, à la nourriture d'homme. On en trouve dans beaucoup de charcuteries de ce graton bordelais. C'est un pain en forme conique qui pèse une quinzaine de kilos, qui est composé de gras dur et de viande maigre. Les différents morceaux sont cuits dans un bouillon pendant 12 heures. C'est mis dans des poches en forme de cône, c'est moulé pour constituer ces mottes et c'est vendu à la coupe. C'est très particulier. C'est pas léger. Mais c'est bon.
Ah ouais, c'est trop bon ça. Et alors moi je voulais vous parler le sel de vin. Est-ce que vous connaissez? J'ai trouvé mais
alors pas du tout.
Ben oui, j'ai trouvé ça génial. C'est une spécialité qui est née d'un accident du côté de Libourne en Gironde sur un bateau au début du XXe siècle. Il y a une cargaison de vin qui se renverse sur du sel et les marins ne savaient pas trop quoi en faire, donc ils ont décidé d'offrir cette cargaison à la femme du caviste à côté qui a rajouté des épices et qui a donc créé le sel de vin qui est très très bon d'ailleurs pour accompagner les viandes. Donc quand ça naît d'un accident, généralement c'est très bon. C'est
pas... Il y a mille des histoires comme ça.
Ouais, 16 tonnes, donc elle en a toujours. Et...
On est en pleine saison, il y a des cèpes.
Alors oui, enfin on est en pleine saison si on veut. C'est compliqué à trouver là en ce moment. Les cèpes, c'est le champignon sylvestre le plus vendu de France quand il y en a sur les marchés. C'est pas évident à Paris en ce moment. C'est le roi des champignons, ce cèpe. C'est absolument fabuleux. Il faut faire très attention parce que c'est une véritable éponge à gras. On connaît tous les cèpes à la bordelaise avec l'ail et le persil. Moi, j'ai envie de la daube de cèpe à la girondine. C'est un truc de folie.
Allez vite.
Dans une cocotte, vous mettez des oignons, de l'ail, des échalotes et un hachis de jambon. Bon, des dés de couane et les pieds des cèpes. Vous mouillez au vin blanc avec un peu de bouillon de poudre. Vous dorez les têtes dans une poêle. Vous incorporez à la daube deux tomates mondées et pépinées. Deux heures de mijotage au feu le plus doux possible. C'est le paradis dans la cuisine, dans la maison. C'est le paradis dans la vie.
Oh, quel bonheur. Bon, vous avez compris, hein, si vous arrivez en ce début de week-end sur l'antenne d'RTL, c'est RTL vous régale. Et si vous nous écoutez pour la première fois, eh ben, vous venez de comprendre ce qui vous attend tous les samedis aux alentours de 10h15 et jusqu'à 11h30. Jean-Sébastien, Louise, on est de retour dans quelques instants avec quelqu'un qui va nous régaler. Il s'appelle David Souni, c'est un historien. Il est archéologue et vous allez voir qu'il va nous raconter un nombre incalculable de choses sur Saint-Émilion, patrimoine mondial de l'humanité. Un parcours de 20 lieux avec des textes, des photographies, etc. On en parle avec lui dans quelques instants. C'est une balade absolument passionnante. Ce sera juste après Angèle.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Gris et la pluie me manque, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont
Bruxelles, je t'aime, le tout nouveau titre d'Angèle. Il est le premier extrait également de ce deuxième album qu'on attend pour la fin de l'année avec beaucoup d'impatience. C'est-à-dire 3 ans quand même après la sortie de Brawl, vendu à près d'1 million d'exemplaires. Angèle, sur RTL.
RTL vous régale.
RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Alors vous savez que dans RTL vous régale, ce qu'on adore faire, c'est accueillir des passionnés aussi, et il en fait partie. Bonjour David Souni.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. David, je précise que vous êtes historien médiéviste, que vous êtes archéologue du bâti, que vous êtes guide conférencier et que vous avez créé pour les 20 ans de l'inscription de Saint-Émilion au patrimoine mondial de l'humanité un parcours de 20 lieux avec des textes, avec des photos. Il faut expliquer que la richesse et la noblesse de cette terre de Saint-Émilion, elle a une genèse. Il faut repartir il y a 30 millions d'années à une époque à laquelle le terroir de Saint-Émilion était une espèce d'océan.
Oui, effectivement, tout le sud-ouest était à ce moment-là sous un océan chaud et peu profond. C'était un petit peu les Bahamas à l'époque. Ici.
C'est dingue.
30 millions d'années, il faut se dire que la région était sous un océan chaud. À l'échelle historique, c'est l'œuf ou la poule. Les hommes arrivent avant la vigne. Hein.
Ah oui, effectivement, on fait un grand bond dans le temps. À la préhistoire, les hommes sont déjà bien implantés sur ce territoire, mais il va falloir attendre la période romaine pour que la vigne s'implante sur les abords de Saint-Émilion.
David, est-ce que les vignobles de Saint-Émilion, de toute cette région, ont influencé l'architecture des lieux ?
Alors, les vignobles et l'argent qu'ils ont généré ont eu une influence, évidemment, puisque ça a généré une prospérité qui se traduit au XIIe siècle, au moment où la ville de Saint-Émilion s'épanouit par une architecture en pierre d'exception, de très belles maisons romanes, une enceinte romane de très grande qualité. Et ça, on peut supposer que l'argent généré par la vigne et la vente du vin y est pour beaucoup.
On trouve des traces depuis le début du XIIIe siècle, hein, des écrits qui témoignent de la qualité des vins dans cette région. Et il y a un truc assez étonnant, moi ça, je ne le savais pas, à cette époque, ce qui fait la renommée de Saint-Émilion sont plutôt les vins blancs d'ailleurs.
Effectivement, oui, ça surprend beaucoup, mais à cette époque-là, les vins rouges n'existent pas, ou presque, et surtout on ne sait pas faire les vins rouges tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc tout au long du Moyen-Âge et pendant bien longtemps encore, le vin de Bordeaux par excellence, c'est le Clairet, qui n'est ni un rouge, ni un blanc, mais au milieu de ces vins, il y a quelques productions d'exception, et Saint-Émilion est déjà réputé effectivement au XIIIe siècle pour ces vins qui sont à cette époque-là des vins blancs.
Est-ce que les rouges sont arrivés à quel moment ?
Alors les rouges existaient au Moyen-Âge, mais on ne savait pas bien les faire, on ne savait pas les faire vieillir. Et les rouges tels qu'on les connaît aujourd'hui, tels qu'on les apprécie, vont naître au 18e et surtout 19e siècle.
Ah ouais, longtemps après. Oui.
Mais moi David, si on vient passer un week-end dans la région, il y a des lieux forcément incontournables. Il y a forcément le cœur historique de la ville de Saint-Émilion qui est incontournable. Mais il y a beaucoup d'autres choses quand même.
Ah oui, c'est un territoire qui est très riche. Et d'ailleurs, en 1999, ce n'est pas la ville de Saint-Émilion qui a été inscrite à l'UNESCO, mais bien son territoire, la juridiction de Saint-Émilion, en tant que paysage culturel. Donc on a un territoire qui est très riche, très varié, avec à la fois des paysages, un patrimoine bâti, mais aussi du petit patrimoine qui parsème les collines et le vignoble. Et c'est cet ensemble-là qui mérite d'être parcouru et découvert.
David Souni, vous parlez de juridiction de Saint-Émilion. Si on prend, est-ce qu'on pourrait comparer ça pratiquement à une communauté de communes aujourd'hui ?
Ce serait un petit peu ça, effectivement. Ce qu'on appelle la juridiction de Saint-Émilion, qui naît à la fin du XIIIe siècle, c'est un territoire de 8 paroisses, donc l'ancêtre de nos communes actuelles, et 8 paroisses qui sont placées sous l'autorité de la jurade de Saint-Émilion, c'est-à-dire le conseil municipal de l'époque, avec à sa tête les jurats de Saint-Émilion.
Alors justement, David, on parle d'un territoire qui regroupe 8 communes. J'imagine que vous aussi, vous avez vos endroits préférés dans ces lieux-là ?
Oui, effectivement. Alors, d'une part, aux abords même de la ville, les visiteurs prennent peu le temps de pousser sur quelques centaines de mètres pour découvrir de superbes panoramas. Je pense entre autres aux abords de la Porte Brunet où le paysage s'ouvre sur la vallée de la Dordogne avec les coteaux d'entre deux mers à l'horizon.
La dernière porte fortifiée de la ville, la Porte Brunet.
Exactement, c'est la dernière porte fortifiée sur les 6 qui existaient encore au 19e siècle. Et puis, quand on prend le temps de cheminer sur la juridiction, on a des panoramas très variés. Et moi, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup sur le rebord des coteaux là, qui domine la vallée de la Dordogne. Je pense entre autres à Saint-Étienne-de-l'Isre, là où une des tables historiques a été installée. Là, il faut prendre le temps de marcher, un quart d'heure, 20 minutes, et arriver au niveau de la Croix de Tourins. On a un paysage magique qui apparaît avec les coteaux, le vignoble, les grands châteaux.
Est-ce que c'est à Saint-Étienne-de-Lys justement qu'il y a notamment cette grande ville gauloise recouverte par la vigne ?
Exactement, aujourd'hui on voit de la vigne sur ce coteau qui correspond à l'ancien oppidum de Niort, village, petite agglomération proto-historique disparue il y a plus de 2600 ans, mais on sait par des sondages archéologiques que les vestiges sont là sous les vignes et ils n'attendent qu'à être révélés au gré des futurs travaux agricoles, voire on espère de fouilles archéologiques un jour.
Merci mille fois d'être venu nous voir dans RTL vous régale. David, je précise que tout ce qu'on vient de se raconter, vous allez pouvoir, vous qui nous écoutez, le vivre sur place avec tout un réseau de guides, avec des balades thématiques pour des publics vraiment variés et vous plonger dans vos livres Saint-Émilion au Moyen-Âge et Saint-Émilion, une ville et son habitat médiéval. David Souni, on vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt dans la région.
Merci David.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Allez, la suite d'RTL Royal dans quelques instants. Les petites gourmandises de Louise.
Oui.
Et en ce samedi matin, puisque nous sommes à Saint-Émilion, nous n'allons pas parler de vin.
Ben non, Saint-Émilion va parler macarons, figurez-vous.
Allez, bougez pas, on arrive après ça. A tout de suite sur RTL.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Si j'avais été un macaron, crois-le bien, mon...
Allez. Et oui, ce matin, les garçons, vous allez être heureux car je vais vous parler macarons, évidemment, parce qu'il n'y a pas que le vin comme spécialité. À Saint-Émilion, il y a aussi les macarons. Alors, Jean-Sébastien, ça vous fait rire, ce mythe de macarons à la place des dieux. Bon, vous voyez,
On ne joue pas avec la nourriture.
Bon, est-ce que vous les trouvez mignons déjà, ces petits macarons que je vous ai rapportés?
J'avoue que ce qui me surprend, c'est qu'ils soient collés sur du papier.
Mais oui, évidemment. Alors, déjà, première question. À votre avis, ils existent depuis quand, ces macarons?
Très longtemps. C'est pas les plus
bon,
vieux de France.
Je vous donne la réponse. Ils existent depuis plus de 400 ans. Ils ont été créés en 1620. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la richesse de notre patrimoine gastronomique et surtout de toutes ces traditions qui perdurent? Moi, je trouve ça absolument fantastique. Mais pour commencer...
J'ai déjà goûté parce que moi, ça...
Ah bah vous ne pouvez pas résister.
Millions, c'est un truc... C'est...
Pour commencer, je vais vous faire un petit point macaron pour vous qui nous écoutez parce que vous ne les avez pas devant les yeux. Donc, ce ne sont pas les célèbres macarons colorés qui sont appelés, eux, des macarons parisiens. Vous savez qu'il y a une ganache au milieu. Là, ces macarons-là, les macarons de Saint-Émilion, sont fabriqués à partir d'amandes douces et amères, de blancs d'œufs et de sucre. Ils ne sont pas garnis. Vous voyez, il y a juste une petite coque qui est craquelée. Donc, c'est pour ça.
Je viens de goûter là.
Alors, comment vous trouvez ?
C'est très, très. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est à la fois croustillant. Et moelleux.
C'est très exactement.
Non, mais c'est déstabilisant par rapport à ce qu'on connaît du macaron aujourd'hui,
en
fait.
C'est un vrai macaron.
Oui, c'est un vrai macaron. Et donc, c'est pour ça, Jean-Michel, que ça colle légèrement au papier, parce que c'est le sucre, et vous mangez ça. Et surtout, et pas qu'au papier, aux dents aussi. Et surtout, vous pouvez le mettre, si vous avez une tasse de café un peu chaude, vous le mettez au-dessus pour que ça fonde légèrement. Bon, on se calme. On va déjà commencer aussi par la petite histoire. Alors, les macarons sont apparus sous le nom de macaron en Italie au Moyen-Âge.
Et je sais exactement à quelle heure.
Il était midi 6. Oh, chut. Il faut attendre 1500... Non, c'est pas possible. Allez, laissez-moi. Il faut attendre 1581 et une fameuse Catherine de Médicis pour trouver la première trace de macarons en France. D'ailleurs, on peut remercier Catherine, hein, parce que sans elle, on ne serait pas aussi heureux aujourd'hui. Et comment le macaron est arrivé à Saint-Émilion en 1620?
À cheval.
Eh bien non.
Un accident, un truc...
Non, c'est une fois de plus, c'est grâce à des sœurs. Et cette fois-ci, c'est celle de la communauté religieuse des Ursulines. Mais il y a eu un drame à ce moment-là, parce que la recette a failli être perdue lors de la Révolution française à cause de la destruction du couvent et la dispersion démoniale. Mais vous savez qu'à chaque fois, on trouve des solutions. Alors je vous rassure, il y a une légende locale qui raconte que l'une des sœurs, une certaine Mademoiselle Boutin, qui vivait dans la pauvreté, aurait proposé de dévoiler la préparation secrète en échange d'un abri et d'un repas. Pas bête, non?
Ouais, pas idiot.
Et bien, c'est la veuve Goudichot.
Bon sang, la veuve Goudichot.
Qui obtiendra la fameuse recette. Et à ce moment-là...
La veuve Goudichot.
Et au moment où la veuve Goudichot se mit à fabriquer ses macarons, et bien, ils ont une renommée nationale. Mais alors, pourquoi? Il y a forcément un lien avec le vin, je vous rassure.
C'est là que ça devient intéressant. C'est quoi le lien avec
Arrêtez
le vin?
Arrêtez un peu.
Non, mais vraiment.
C'est lors d'une exposition universelle en 1867. Les propriétaires de grands crus font accompagner leurs envois de vin avec quoi?
Les macarons.
Et ben voilà, vous avez tout compris. Bon alors ensuite, il faut quand même savoir comment aujourd'hui on les a. Alors la veuve Goudichard.
Grignon, elle est de retour.
A transmis sa recette à son gendre Joseph Grandet. Ensuite, se succède.
Le Joseph, on l'appelait.
Tenez-vous bien, écoutez-moi qui succède après Joseph. Madame André, Madame Jeanne Passama, Madame Magdeleine Blanchet, Madame Danielle Blanchet, et enfin. Enfin, aujourd'hui, Madame Nadia Fermigier, qui est aujourd'hui la seule au monde à fabriquer à Saint-Émilion les fameux macarons de Saint-Émilion qui se trouvent devant vous et dans votre bouche.
Toute petite boutique qui est totalement mignonne. On a l'impression d'être plongé dans l'histoire quand on arrive chez Nadia Fermigier. C'est un bonheur d'aller là-bas. Moi, à chaque fois que je vais à Saint-Émilion, je m'arrête, j'en prends trois caisses.
Et alors d'ailleurs, on remercie Nadia Fermigier et son mari Didier Julien qui sont donc les fabricants de macarons à Saint-Émilion. Et si vous qui n'êtes pas forcément à Saint-Émilion à l'instant T où vous nous écoutez, vous pouvez aller sur le site macarons-saint-émilion.fr pour commander en ligne ces macarons. Voilà. Et puis moi, je vous propose, les garçons, comme chaque samedi, on adore les secrets, mais on adore aussi percer les mystères. C'est peut-être d'aller passer une petite tête dans la boutique pour avoir éventuellement une ou deux infos.
Vous n'aurez rien du
évidemment.
Tout.
Évidemment.
Eh ben, on ne sait jamais.
Louise, ils sont délicieux ces macarons.
C'est vrai.
C'est une bonne idée, ouais.
Peut-être que semaine prochaine, je ferai un peu plus du salé. On va voir comment vous tenez cette semaine.
Je retiendrai de cet instant de radio précieux que Jean-Sébastien Petit-Demange vient quand même d'avouer officiellement sur cette antenne d'RTL qu'il avait l'habitude d'en faire des caisses. De macarons, voilà.
D'en rapporter des caisses.
Oui, bien sûr. On va se retrouver dans un instant. Le défi vous attend, les amis. Louise, Jean-Sébastien, on va attendre de vous deux recettes originales à base d'un
ingrédient
qu'un auditeur va nous donner dans un instant. Ça s'appelle le défi frigo. C'est à vivre sur RTL tous les samedis matins aux alentours d'11h.
Restez bien avec nous. RTL vous régale. Revient tout de suite. RTL. 10h15, 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Allez, très vite les amis, juste avant les infos de 11h sur RTL, le défi frigo de ce samedi matin, il oppose comme chaque semaine Louise à Jean-Seb. Et nous accueillons sur l'antenne d'RTL Florian, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Florian.
Bienvenue dans RTL vous régale. Florian à La Roche-sur-Yon, en Vendée.
Exactement, oui.
Ah, on vous voit arriver avec un produit local, forcément.
Ah, Vendée. Bah.
La Mogette.
Ah,
bah voilà.
On en a parlé il n'y a pas longtemps.
C'est vrai, exactement.
Ah, j'adore
et,
ça.
Et alors, les Mogettes au menu de ce défi frigo, avec deux recettes originales. La Mogette que vous faites rapidement, hein, comment d'habitude vous la préparez, comment vous, Florian?
On rappelle quand même que la Mogette, c'est un...
C'est un haricot.
Haricot
blanc, voilà, ouais. Mais déjà, il faut la faire tremper pour que ça gonfle de volume. Ah. Après, on la cuit dans une cocotte, quelques carottes coupées en rondelles. De l'ail, cuisson, 25 minutes en cocotte, 30 minutes à peu près, enfin, ça dépend, enfin, voilà.
Bon, okay.
Et ça se mange, c'est super bon. Et sur une grillée, par exemple, là, avec du beurre, demi-sel, c'est fabuleux.
Et ben voilà, Florian, bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné le défi frigo. Bravo, Florian.
Bon, ne bougez pas, parce qu'on se retrouve dans quelques instants. Les amis, vous avez maintenant l'espace des infos pour plonger le nez dans le guidon et revenir avec deux recettes originales pour Florian. Et vous avez compris que c'est quelqu'un qui connaît quelque chose en Mogette. Vous ne bougez pas, on va le surprendre. A tout de suite sur RTL.
Retour de RTL vous régale.
Vous écoutez RTL, il est 11h. Les infos vous sont présentées tout de suite par Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Et on commence avec cet appel à la prudence dans le sud-est, notamment dans le Var, désormais placé en vigilance orange, pluie, inondation. On a de fortes averses orageuses ce matin sur le littoral et sur les îles. Alerte également dans les Cévennes, le Gard, la Lozère et l'Ardèche sont également en vigilance orange. Pas d'intervention des secours pour le moment, mais les pluies vont rester soutenues au moins jusqu'au milieu d'après-midi. Faire un petit buzz et une polémique sur la chasse, ça peut ramener un peu de voix. Invité de RTL ce matin, Willy Schren, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, répond à Yannick Jadot. Le candidat écologiste veut interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Le coup d'envoi du G20 ce matin à Rome. Les dirigeants des plus grandes économies mondiales se réunissent jusqu'à demain dans la capitale italienne. Au programme des discussions, lutte contre le Covid, relance économique mondiale et surtout climat, d'autant que la COP26 démarre demain à Glasgow, en Écosse. Et c'est en marge du G20 qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre Boris Johnson doivent s'entretenir sur le dossier brûlant de la pêche. Londres menace désormais de renforcer ses contrôles pour les bateaux européens, réponse aux mesures de rétorsion envisagées dès mardi par Paris. Entre la France et les États-Unis, en revanche, les relations se réchauffent. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont rencontrés hier soir au Vatican pour la première fois depuis la crise des sous-marins. Dans ce dossier, nous avons été maladroits, reconnaît le président des États-Unis. Le football, la suite de la 12e journée de Ligue 1 et deux matchs au programme aujourd'hui. Metz-Saint-Etienne à 17h, puis Lyon-Lens ce soir à 21h. Confrontation à vivre en direct dans RTL Foot. La météo cet après-midi, outre les intempéries dans le Var et dans les Cévennes, c'est dans une large moitié est que l'on aura de la pluie encore cet après-midi. Temps plus calme sur la façade ouest avec même quelques éclaircies de la Normandie au Pays Basque. Côté température, on va avoir 16 à Lille, 17 à Rennes, Nice et Lyon, 21 à Bordeaux, 25 degrés à Perpignan. Les courses, le Quintet, c'est à Compiègne cet après-midi. Dominique Cordier, bonjour.
Bonjour à tous. Ils sont 14 au départ du Quintet cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne. Il s'agit d'une course de haies, longue de 3600 mètres avec au départ des chevaux de 5 ans. Je vous propose le pronostic suivant. En tête, le numéro 7, Gaborio, puis le 2, Gardez la monnaie étant ma dernière minute, le 10, Gelong Sport, le 12, Gilou 4, le 4, Fair Blue, le 8, Bubble Blue, et enfin le 9, Denter des Obos, le 7, le 2, le 10, le 12, le 4, le 8 et le 9. Départ de la course à 15h15, je vous souhaite de très bons jeux.
Merci beaucoup Dominique. RTL, 11h03, on continue à se régaler avec vous Jean-Michel Zeka.
Alors Sébastien, autant vous dire que si vous êtes un amateur de mojettes, vous ne bougez pas, vous restez dans ce studio parce que on a deux recettes qui arrivent. C'est le défi frigo d'RTL vous régale, à tout de suite.
RTL vous régale,
Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 11h30,
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Ça vous plaît? Oui, c'est moi qui l'ai fait.
Le défi frigo proposé par Florian de La Roche-sur-Yon en Vendée. Bon, Florian.
Oui.
J'imagine que vous vous attendez à un truc de dingue. Les infos ont duré quoi? Ça a duré 4 minutes à peu près.
Je voudrais un truc glamour, parce que les mojettes, c'est pas très glamour, quoi. C'est pas très sexy. C'est
mais
pas...
je suis tellement d'accord avec
moi,
vous.
Je suis
on
pas
attend
du tout
glam.
D'accord.
Si, on attend du glam. Ah, pour le fait, sur le fait que la mojette soit pas le plus sexy.
Ah là là, moi j'adore ça.
Ouais. Bon, ben on va voir ce que vous allez en faire. Du coup, c'est Louise qui commence, puisqu'elle adore ça. Voilà, le temps que... Attends, Jean-Seb, on lève les bras là, on ne rédige plus, c'est terminé. Parce que quand Louise se lance, c'est terminé.
Oui, bien
voilà.
Sûr.
Florian, vous êtes prêt?
Allez, c'est parti.
Louise, elle a 1 minute 30 devant elle. À vous de nous faire rêver.
Alors Florian, déjà merci parce que j'adore les mojettes. Je vais vous proposer une crème de mojette avec des chips de jambon. Oh. Alors comme vous l'avez très justement dit, il est très important de faire tremper vos mojettes la veille dans de l'eau. Premièrement pour effectivement les faire légèrement gonfler, mais surtout parce que ça va permettre de les pré-cuire, ça va ramollir la peau et ça vous facilitera surtout la digestion. Bon allez, c'est parti pour la recette. On va préparer la crème. Donc vous allez faire cuire vos mojettes dans de l'eau bouillante avec une gousse d'ail écrasée, environ 30 minutes. Vous allez ensuite mixer tout simplement vos mojettes avec de la crème, un petit peu de noix de muscade, de l'ail évidemment, du thym, sel et poivre. Vous avez votre crème qui est prête. Vous allez voir, c'est onctueux, c'est joli, c'est gourmand, c'est réconfortant. À côté de ça, vous allez préparer vos chips de jambon. Florian, rien de plus simple, écoutez-moi. Préchauffez votre four à 200 degrés. Sur une plaque, vous recouvrez de papier sulfurisé. Vous étalez vos jambons, votre tranche fine de jambon, parce qu'il me semble qu'il y a du jambon en Vendée, non?
Ah oui.
Voilà, donc évidemment,
bon.
Vous prenez du jambon de Vendée. Vous allez remettre une couche, une feuille de papier sulfurisé, puis une autre plaque pour bien que vos tranches de jambon soient aplaties. Et puis, vous allez passer ça au four 10 minutes. Vous allez disposer, un peu comme des mouillettes, vous voyez, vos chips de jambon que vous allez tremper dans votre crème de mojette. Et voilà.
Oh, bah, 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 tout juste Louise, une 30 crème de mojette.
La crème
chips de jambon. Voilà, chips de jambon de Vendée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'en dites rien, Florian, car en face de Louise... Il y a l'adversité.
Bon
eh oui, il y a du gros client. Là, attention.
Et, oui.
Et lui a bossé pendant autant de temps, c'est-à-dire 3-4 minutes, et va nous sortir ceci.
On va partir pour le Maroc. On va faire un plat de haricots blancs à la marocaine. Vous allez émincer un oignon et vous allez écraser cet oignon avec de l'ail, du curcuma et du gingembre dans un mortier. Évidemment, vous aurez fait tremper vos haricots. Pendant une nuit, vous les aurez fait blanchir, ces mojettes, dans un grand volume d'eau pendant 15 minutes. Et dans une cocotte, vous mettez de l'huile d'olive. Vous ajoutez oignon, ail, curcuma, gingembre. Vous faites revenir dedans des morceaux de poulet
à peu près, vraiment le poulet coupé en morceaux, les cuisses, les ailes, les blancs. Vous mettez le poulet, vous ajoutez vos haricots une fois que les morceaux sont revenus. Vous nappez tout cela d'une belle sauce tomate avec du cumin, de la coriandre, du sel, du poivre. Vous recouvrez d'eau et là vous laissez cuire pendant une petite heure à feu très très doux. Faut juste que ça plom, 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 plom. Comme ça, ça va absorber, les haricots vont à nouveau absorber de l'eau. Et au bout d'une petite heure, c'est cuit, c'est bon, vous êtes au Maroc et vous êtes heureux.
C'est Limogette. C'est Limogette à la marocaine.
C'est la Mogette.
Bon, et tout ça en moins d'une minute trente.
Deux salles, deux ambiances.
Florian, c'est le patrimoine marocain.
Vous êtes à La Roche-sur-Yon et c'est vous l'arbitre de ce défi frigo ce matin. C'est à vous de nous dire ce que vous choisissez et surtout pourquoi vous choisissez.
Moi, je vais partir à Casablanca.
Ah ouais, voilà.
Il pourquoi l'a fait. Parce que, en fait, Louis, c'est un petit peu classique, je trouve. Enfin, voilà, un petit peu classique. Je connais un petit peu les chips de jambon. Et ben là, totalement l'exotisme. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est voilà, quoi. Voilà.
J'ai envie de dire, il vous a remporté. Voilà, il vous a
eu. Il m'a emporté, c'est clair.
Il vous a emmené sur son tapis volant et vous êtes à Casablanca. Voilà, c'est là, l'affaire est dans le sac. Bon, vous avez bien fait de
c'est
nous appeler,
grave,
Florian.
C'est pas grave, vous n'êtes pas fidèle à votre région, c'est pas grave.
Oh non, vous pouvez pas, non pas. Oh là, mais le coup bas, le coup bas.
Avec un bon poulet de Chaland dans le...
Exactement, eh oui.
Eh oui.
Bon, Florian, vous avez bien fait d'appeler le 3210 ce matin. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous avez fait, si c'est un coup de téléphone ou si c'est par SMS que vous avez joué.
Un coup de fil, ouais, un petit coup de fil. Au 3210.
Et bien, grâce à ce coup de fil au 3210, vous allez partir en week-end avec la personne de votre choix au cœur du Beaujolais. On vous envoie au magnifique château de Pizet, qui est à la fois un château hôtel 4 étoiles et c'est un des plus grands domaines viticoles de la région. C'est entre Brouilly et Morgon. C'est aussi un des meilleurs restaurants gastronomiques de cette même région. Vous allez partir quoi, à 40 minutes de Lyon. Vous serez accueilli au cœur de 80 hectares de vignes. On parle beaucoup de vin et de viticulture ce matin. Mais là, vous serez au cœur des jardins à la française, des tourelles médiévales. Il y a une grande cour d'honneur. Il y a une piscine extérieure. Prévoyez ça. Il y a un court de tennis. Le château de Pizet va vous-même vous proposer de vous initier à l'œnologie, de vous faire découvrir les crus du domaine, des morgons, des beaujolais rouges, des blancs. Et en plus, vous serez invité au restaurant gastronomique du château pour découvrir un plat typique du chef Florian Choquet qui travaille les produits du terroir et leur mariage avec les vins du château. Voilà, j'étais hors chrono, mais je pense que ça valait la peine. Allez jeter un coup d'œil sur château-pizet.com. Ça va être un très beau week-end qui se profile pour vous, Florian.
Ah oui, c'est génial. Et merci à tous, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. Merci beaucoup.
C'est avec grand plaisir qu'on vous invite là-bas. C'est l'esprit d'RTL vous régale et c'est comme ça tous les samedis. On mettra un défi frigo en jeu dès la semaine prochaine. On vous salue, on vous souhaite un bon week-end.
Merci beaucoup, bon week-end à tous. Merci.
Bon week-end, Florian.
Vous êtes fidèles. À bientôt.
Merci.
Et je vous rappelle, un 3210 par téléphone ou 64 900 avec le mot régal suivi d'autres messages. Si vous voulez lancer des défis à Jean-Seb victorieux ce matin et à Louise. 1985, Annie Lennox, Dave Stewart, les Eurythmics, There Must Be an Angel sur RTL.
RTL vous régale.
Mais pourquoi vous lisez l'équipe, vous, Eric, là?
Bah, c'est-à-dire que vu qu'on a Franck Leboeuf là dans quelques minutes, je voudrais savoir ce qu'est le foot quand même.
Il est temps de réviser.
Bon, une chance, on va pas parler football avec une. Non, on va parler télévision évidemment et de son parcours absolument incroyable. Rendez-vous à 11h30 pour parler donc de foot avec un club de golf.
Et pas que.
Ouais. À tout de suite.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka.
Alors vous savez les amis, quand on invite un ambassadeur dans RTL vous régale, on est redoutable dans la sélection. Le casting est impitoyable.
Bah oui, forcément.
Bon, alors on s'est dit que pour parler de vin, c'était mignon, il fallait quand même quelqu'un d'unique, quelqu'un qui avait dû être meilleur sommelier du monde, qui est meilleur sommelier de France, qui est meilleur ouvrier de France. Nous accueillons Philippe Forbrach. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Ouais, mais c'est un bonheur de vous avoir surtout. Merci de nous consacrer un peu de temps.
Mais je vous en
Philippe,
prie.
Quand on découvre ce terroir de Saint-Émilion, la colline aux mille châteaux, etc., c'est absolument exceptionnel. Ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est la lumière de l'endroit aussi. Est-ce que ça ne participe pas un peu au plaisir de la dégustation?
Mais absolument, on est très influencés de toute façon les uns les autres par l'environnement, par la lumière, vous le disiez à l'instant, par la température, par les gens avec qui on est et par les lieux. Qui parle. Saint-Émilion, ça parle depuis longtemps. C'est une entité extraordinaire depuis des siècles et des siècles, qui abrite à la fois un vignoble, mais aussi une cité. Et à la fois le vignoble et la cité sont classés, et ça confère un charme et une attractivité assez exceptionnelle.
Est-ce qu'on pourrait ajouter d'ailleurs qu'on ne peut pas bien déguster un vin, quel qu'il soit, mais on parle de Saint-Émilion éventuellement, sans connaître l'histoire de cette terre?
Ah ben c'est sûr qu'on s'imprègne de toute cette dimension culturelle, la géologie elle-même, hein, la terre qui parle, mais également les gens qui sont passés, les générations qui ont œuvré, qui ont sculpté, j'allais dire, un peu le terroir. Et Saint-Émilion représente bien tout ça. Il y a des clos à Saint-Émilion. C'est l'endroit finalement le plus bourguignon du Bordelais. D'ailleurs, les styles des vins sont ciselés, ont une suavité qui est très différente de celle qu'on peut avoir dans les autres secteurs du Bordelais. C'est vraiment une entité à part.
Philippe Forbrach, j'ai parlé tout à l'heure en début d'émission du fameux classement de 1855 qui ne concernait que Médoc et Sauternes. On a quand même classé, au bout d'un moment, on s'est mis à classer les Saint-Émilion et les autres vins de Bordeaux. Hein.
Oui, on a classé les graves, c'était un siècle après, donc c'était plutôt dans les années 1950, et à la même époque, on a effectivement classé aussi Saint-Émilion. Alors du coup, ça fait une hiérarchisation, et c'est vrai que Saint-Émilion, c'est l'une des appellations les plus connues de France, et peut-être même les plus connues du monde, je veux dire, ça parle vraiment à beaucoup, beaucoup de gens. C'est à la fois l'histoire qu'on a évoquée, c'est également le volume de production qui est très important, puisqu'il y a quatre niveaux, si on veut, d'appellation, en tout cas d'hiérarchisation. Il y a Saint-Émilion, il y a Saint-Émilion Grand Cru, Saint-Émilion Grand Cru classé et Saint-Émilion Premier Grand Cru classé. Donc au plus on va vers le haut de la pyramide, moins il y a de vin, plus ils sont chers, mieux ils sont en qualité, bien entendu, aussi. Et pour rentrer dans ce fameux classement, c'est-à-dire les Saint-Émilion Grand Cru, c'est déclaratif, il y a un cahier des charges qui est assez accessible. Quand on veut être effectivement Grand Cru classé, au premier Grand Cru classé, là on rentre dans une compétition terrible, et avec des enjeux qui sont des enjeux de toutes sortes d'ailleurs, à la fois d'image, économique, etc., et surtout qualitatif.
Philippe, des Saint-Émilion, on en trouve à tous les prix. On peut trouver des Saint-Émilion à partir de 10-15 euros qui sont très accessibles. Moi, j'ai envie, à vous qui avez tout goûté, tout bu depuis des années, faites-nous rêver avec le plus grand Saint-Émilion, le plus beau château que vous ayez jamais bu.
Il y en a pléiade. Quand on évoque Saint-Émilion, on pense à Cheval Blanc, aux autres,
deux
crues historiques. Bien sûr, aujourd'hui, on a rajouté d'autres crues, comme Angélus, comme Pavie. J'aime beaucoup Figeac, par exemple, qui donne des vins juste très, très ciselés, vraiment magnifiques aussi. Enfin, voilà, il y en a beaucoup. Pressac, par exemple, qui est un grand cru classé aussi remarquable. Enfin, vraiment, la plus belle bouteille que j'ai bu de ma vie, c'est sûrement Cheval Blanc 1947. C'est un vin qui est encore aujourd'hui debout, comme on dit. C'est-à-dire que la bouteille, elle est présente à table quand on est là. Et on peut se mettre à genoux, mais elle reste debout. Et c'est un vin juste terrible. La densité, la suavité, le côté extrêmement solaire de ce millésime lui confère encore aujourd'hui une structure remarquable. Donc on est plutôt sur des notes de fruits qu'on a évoquées tout à l'heure, mais assez confits. La prune, bien sûr, a évolué vers le pruneau. On a des arômes aussi tertiaires qui évoquent le sous-bois et surtout le côté truffe, qui est juste incroyable sur les merlots d'un certain âge. Donc on a une grande complexité, mais ce qui est étonnant, les arômes, on peut bien imaginer qu'avec le temps, ils évoluent, sont présents. Mais c'est parfois la bouche qui pêche un peu, avec une fluidité qui apparaît. Et ce n'est pas le cas pour ce genre de bouteille.
Philippe,
on
rêvait, en vous entendant parler d'un cheval blanc de 1947. Moi, je vais ramener tout le monde sur Terre. Quel est le prix d'une bouteille de cheval blanc 47, si jamais on en trouve?
Le prix que vous voulez en donner. Parce que de toute façon, on les achète dans les ventes aux enchères aujourd'hui. On ne sait pas, ça coûte quelques... Voilà, ça peut coûter...
Mais on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Non, mais oui, on est plutôt autour de 10 000 quand même. Hein. Ce sont quand même des bouteilles qui aujourd'hui deviennent extrêmement rares. Il y a des légendes comme ça.
Hein. Voilà. Il faut vraiment le boire maintenant ou il peut encore se faire désirer ce vin?
On peut attendre.
Je crois que si on a un dîner.
Parce que pour 10 000 euros, ce serait bête de louper le coche.
Avec Louise Petit-Renaud, je pense qu'on peut ouvrir cette bouteille. Mais non,
je suis libre ce soir, Philippe.
De la situation. Voilà, samedi soir entre amis, c'est super sympa.
Bon, deux choses pour terminer. Philippe Forbrac, vous avez retenu un truc, c'est que vous avez réussi à obtenir Louise Petit-Renaud à dîner grâce à un cheval blanc de 1947. Là où d'habitude, en ce qui nous concerne, elle n'accepte que la Romanée Conti. Ça, c'est une première chose.
Et alors, la seconde,
c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tous les trois, c'est qu'on va prendre rendez-vous, on va réserver, parce que si on veut vous rencontrer et parler de Saint-Émilion autour d'un bon plat de pigeon ou d'autre chose, on vient dîner chez vous dans votre restaurant, le Bistrot du Sommelier à Paris.
Exactement.
Merci d'être venu nous voir, c'était un bonheur.
Beaucoup. Merci à vous trois et merci à tous et à bientôt.
À bientôt, Philippe. Bon week-end à vous. Dans un instant, le petit pas plus loin de Jean-Sébastien. Alors, on va filer pour quelle destination, Jean-Seb?
On va faire une trêve.
Une trêve. Le lien entre Saint-Émilion et trêve, la réponse, dans un instant sur RTL. Joli.
RTL vous régale.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Alors, vous savez que pour terminer RTL vous régale chaque samedi, on aime bien faire un petit pas de côté, un petit pas plus loin qui nous emmène ce samedi matin du côté de Trèves, Jean-Sébastien.
Trèves, qui est la plus ancienne ville d'Allemagne, qui fut fondée par l'empereur Auguste en 16 avant Jésus-Christ, après sa victoire sur les Trévires, tribu gauloise qui vivait ici. Sa position stratégique en bord de Moselle en fit carrément la deuxième Rome au IVe siècle. C'était la capitale des Gaules, véritable tour de contrôle des légions romaines gardant les frontières de l'Empire face aux Germains. Alors il reste à Trèves quelques vestiges de cette époque romaine, à l'image de la Porta Nigra, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Elle est devenue le véritable emblème de la ville. Et puis il y a la Moselle qui passe, rivière prenant sa source dans les Vosges, qui se jette dans le Rhin à Koblenz, et autour de Trèves, les méandres de la rivière ralentissent son cours. Du coup, elle devient langoureuse, limite fainéante. Et elle se pare de vignobles admirables, enrobant des berges escarpées. Certaines parcelles ont commencé à être exploitées par les Romains. Ici, le cépage roi, c'est le Riesling, qui donne des blancs légers aux arômes délicats de litchi, de rose. Et comme signe de reconnaissance, il y a une légère âpreté. Le vin, donc, comme dans le Bordelais. Mais Trèves et la Moselle, c'est aussi le souvenir d'Ozone, originaire de Bordeaux. Ozone devint précepteur du futur empereur Gratien à Trèves. Avant de devenir consul, il écrivit des vers sublimes sur la Moselle. Et le plus grand cru de Saint-Émilion porte son nom, ses châteaux Ozone.
Et voilà pour le lien exactement entre Saint-Émilion et Trèves. De plaisanterie, puisque la semaine prochaine, RTL vous régale sera de retour à l'entour de 10h15. Louise, j'en sais, bon, on va fixer rendez-vous à tout le monde. Dans quelle ville la semaine prochaine?
La ville de Don Quichotte.
On va dans le Bourbonnais.
On est à Moulins.
Parler de choses de mon enfance, je vous raconte pas là comme je suis excitée à l'idée de vous retrouver.
Ouais, ça, vous avez une semaine pour nous préparer ça.
Elle va essayer de me choper sur le terrain du pâté de pommes de terre.
Ouais,
vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si vous voulez choper qui que ce soit, c'est du cheval blanc 47. Bon, on va faire chauffer les cartes. La semaine prochaine, donc, rendez-vous à Moulins dans le Bourbonnais. Et tout de suite, vous allez retrouver Jade et Eric Dussard. On refait la télé sur RTL avec Franck Leboeuf pour inviter. Passez un très bon week-end. Je rappelle que RTL vous régale est à réécouter en podcast sur l'application RTL. À samedi prochain.